D'accord ? Et d'un autre côté, les mitzvot. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué ? On a expliqué quelque chose de très important. On a dit, il y a une différence fondamentale entre l'étude et les mitzvot. C'est quoi ? C'est que quand je fais une mitzvah, la mitzvah ne me change pas forcément. La mitzvah m'entoure. La mitzvah m'enveloppe. Mais la mitzvah ne me change pas forcément. Ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Alors que quand j'étudie quelque chose, l'idée qui est rentrée dans ma tête va me changer profondément. Alors, ça ne veut pas dire que le plus important c'est la Torah, le plus important c'est la mitzvot. On n'est pas en train de rentrer dans le détail qui est plus important que qui. C'est pas le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est d'expliquer pourquoi on insiste beaucoup sur l'étude. Et qu'au-delà de l'impact que peut avoir une mitzvah, l'impact que va avoir l'étude, c'est un impact qui est éternel. Bon, certainement vous vous rappelez, la semaine dernière, en tout cas je vais rafraîchir la mémoire, la semaine dernière on avait expliqué comment très souvent on voit des gens qui étaient en école juive lorsqu'ils étaient petits, entre-temps ils ont fait beaucoup de choses, et après, des années plus tard, ils disent « Ah oui, je me rappelle, j'avais étudié ça quand j'étais jeune. » Pourquoi ? Parce qu'une chose qui est rentrée dans la tête, elle ne sort pas. C'est comme ça. Encore plus quand c'était quand on était enfant. Parce que quand on est enfant, on l'a appris dans la Mishnah la semaine dernière, dans Pirkei Avot, on a appris que quand on étudie la Torah quand on est enfant, c'est comme de l'encre que tu mets sur un papier neuf. Alors que quand on étudie la Torah quand on est plus âgé, c'est comme quand on met de l'encre, d'accord, sur un papier qui est déjà abîmé. Et là, l'encre, elle tient pas bien. C'est-à-dire, quand on est enfant, d'accord, on doit savoir que quand on étudie la Torah quand on est enfant, même si on croit qu'on va recouvrir tout ce que tu veux, mais ça reste, ça peut pas partir. Ça restera ad vitam aeternam. Donc, d'où l'importance de l'étude de la Torah. Maintenant, on va prendre la Ubaze Yuvan. Ubaze Yuvan, donc on est à l'étude du Treshvat, page 291. Alors, Ubaze Yuvan, je suis ici, alors, excusez-moi.
291
au Basé Yuval. Oh. Voilà, au Basé Yuval. Alors, petit détail intéressant que j'ai oublié de préciser la semaine dernière. Je vais vous raconter une anecdote. La Gemara, elle raconte, elle ramène un verset dans Daniel. C'est écrit qu'une fois, le prophète Daniel, il marchait avec des gens. Il marchait dans la rue. Et à un moment, ils ont vu des anges. Et c'est écrit, là-bas, le verset, il dit que tous ceux qui étaient avec le prophète Daniel ont eu peur. Mais, la Gemara dit, enfin le texte dit, il dit, Daniel a vu les anges, et ceux qui étaient avec lui n'ont pas vu les anges. Alors la Gemara dit, je comprends pas. Daniel, le fait qu'il a eu peur quand il a vu les anges, c'est normal, parce qu'il a vu. Mais les autres qui n'ont rien vu, pourquoi ils ont eu peur? Et la Gemara a dit cette grande phrase qu'on va développer, elle dit, même s'ils l'ont pas vu avec leurs yeux, leur mazal a vu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de dire qu'on a pu percevoir ça avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos sens matériels. Et pourtant, notre neshama, notre mazal le ressent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qu'il explique ici en introduction, c'est que la même chose quand on parle d'étudier la Torah. On arrête de dire des choses très très grandes. On dit quand tu étudies la Torah, tu t'attaches à Dieu, et ta neshama, elle ressent Dieu. Je dis, mais attends, c'est magnifique ce que tu me racontes. Moi, je ressens rien du tout de tout ça. Moi, je ressens rien, donc c'est du pipeau. Parce que voilà, si je le vois pas, c'est qu'il n'y a pas, ça n'existe pas. Quelle est la réponse? La réponse, c'est qu'il y a des choses qu'on arrive à percevoir physiquement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à percevoir physiquement. Et c'est pas parce qu'on ne le perçoit pas physiquement que ça veut dire que ça n'existe pas. Vous connaissez l'anecdote? Une fois en Russie. Vous savez, dans la Russie? Une fois en Russie, dans une classe, il y a un professeur qui veut convaincre ses élèves que Dieu n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Très connu. Alors, il dit à ses élèves, il leur dit c'est en Russie. L'histoire s'est passée en Russie. Il dit, à la maison, j'ai la référence. Et il dit à ses élèves, il leur dit, voilà, j'ai une preuve que Dieu n'existe pas. Il dit, regardez, la table, est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez? Elle existe. La chaise, est-ce que vous la voyez? Oui, on la voit, ben, elle existe. Pareil, il prend le tableau, il prend plusieurs objets. Il dit, est-ce que vous la voyez? Elle existe. Dieu, est-ce que vous le voyez? Non. Alors, elle n'existe pas. Alors, il y avait un petit juif dans la salle. Il a dit, et le cerveau du professeur, vous le voyez? Eh ben, il n'en a pas. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est pas parce que je ne vois pas quelque chose qui n'existe pas et que je ne le ressens pas. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ressent et qu'on n'est pas capable de trouver des mots pour l'exprimer et pourtant on le ressent. Par exemple, si je vous demande d'exprimer dans des mots ce que vous avez ressenti le jour de Kippour, vous êtes capable? Très compliqué. À la limite, celui qui veut, il peut même vous convaincre que c'est des illusions. Celui qui veut, il peut vous convaincre que c'est des illusions, tu t'es mis en condition automatiquement, ben voilà, t'es parti, mais en vérité, il n'y a rien du tout. C'est très difficile à trouver des mots et à trouver des choses pour expliquer ça. Et pourtant, on y croit, parce qu'on sait que c'est vrai. C'est la même chose. Quand on parle de l'importance d'étudier la Torah, Même si des fois on se dit, mais attends, c'est très gentil ce que tu me dis. Tu me dis que quand on étudie la Torah, c'est la volonté de Dieu, et j'ai Dieu dans ma tête, etc. Mais je ressens rien. C'est pas grave. Même si tu ressens pas, c'est quand même ta neshama, elle ressent, et ta neshama, elle sait ce qui se passe. Autre parenthèse que je voulais ouvrir, après on démarre tout de suite. Vous savez, je me rappelle quand j'étais petit, on allait avec mon père chez le rabbi au 770. Et le rabbi parlait en yiddish. Et je comprenais pas le yiddish. Mon père, à cette époque-là, je ne sais pas s'il comprenait le yiddish. Je comprenais un petit peu, je pense, mais je ne sais pas s'il comprenait le yiddish. Et on restait des heures à écouter le Fabringen. C'est-à-dire, un enfant, il s'ennuie à un moment. Il dit, attends, mais tu écoutes, imagine, toi, tu écoutes, c'est du chinois.
Et tu comprends rien.
Tu comprends rien.
Et t'attends.
Alors, on est attenté là. T'attends, et bah, dès qu'il y avait une chanson, tu vois, bon, là, mais la chanson, il y avait combien? Des fois, on a mis parler une heure. Après une chanson, on entrecoupait quelque chose, après, il repartait. Et c'était très, très long. C'était très, très long. Mon père, il m'avait dit comme ça. Alors, j'avais dit à mon père, j'ai dit, mais pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Mon père, il m'a dit, c'est un mot qui est écrit dans Chassidut, dans beaucoup d'endroits, que même si on n'arrive pas à comprendre, la Neshama, elle comprend. Et c'est pas une phrase qu'on a inventée pour les imbéciles. Enfin, pour les bons à rien, dit bon, la Neshama, elle comprend. C'est vrai, c'est ma mâche comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de comprendre avec notre cerveau, mais que la Neshama, elle comprend. Donc c'est la même chose. Moi, quand j'étudie la Torah, j'essaye de comprendre. Est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai pas compris? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ma Neshama, elle ressent des choses très très puissantes. D'accord? Alors, pourquoi je vous explique tout ça? Parce que la question qu'on se pose, c'est que j'ai souvent des gens qui me posent cette question. Ils me disent, je suis chez moi à la maison, j'ouvre un livre. Mais je pense que ce que je vais comprendre, en vérité, c'est que j'ai rien compris. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose ce que je fais? En d'autres termes, mon cerveau humain ne va pas forcément comprendre ce que je fais. Est-ce que ça sert à quelque chose? Et c'est là la réponse qu'on vient d'expliquer aujourd'hui, que même si mon cerveau humain n'a pas vu, mon mazal l'a quand même vu. Donc, c'est important. La neshama, elle a compris. Ma neshama, elle a compris, et donc ma neshama, elle a une grande simra quand j'étudie la Torah, donc il faut continuer à étudier, même si on ne comprend pas tout à 100%. D'accord? Ça, c'était juste, je voulais développer ces points-là avant de commencer dans la suite. Maintenant, Ubazeyuvan. Alors, on va commencer dans les mots maintenant. Ubazeyuvan, avec ça, on va comprendre. Lama gadla me'od ma'alat aisek batorah. Avec ça, on va comprendre. D'abord, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Tout est clair? Vous êtes fatigué aujourd'hui?
Non.
Hein? Faites quelque chose de plus simple? Ah, j'entends pas, j'ai pas de feedback. Une fois, quand j'étais à New York, il y a un rave, il a dit, quand tu fais un cours et qu'il n'y a pas de feedback, soit ça veut dire que les gens ont tout compris, soit ça veut dire qu'ils n'ont rien compris.
L'exemple de Daniel, après, il suffit, si Daniel l'a perçu, ils ont pu percevoir la peur de Daniel. C'est pas...
Ah ben, maître. Et des Mefarshim qui posent la question.
Ah oui.
Ils disent, peut-être, c'est possible, que quand ils ont vu Daniel qui a eu peur, ils ont eu peur.
Voilà.
Pour moi, il y a des Mefarshim qui disent qu'il faut dire que Daniel, il était positionné d'une manière que physiquement, il ne le voyait pas. Ou que extérieurement il montrait pas le fait qu'il avait peur. Et c'est pour ça que la Gemara s'arrête et te dit pourquoi ceux qui étaient avec lui ont eu peur, ils ont rien vu. Et là la réponse c'est que même si ils n'ont rien vu avec leurs yeux, mais leur neshama a ressenti. D'accord. D'ailleurs en passant, puisque tu m'as branché dessus, on explique en Hassidout comme ça. C'est écrit, la Gemara a dit que le voleur, avant de commettre son larcin, il lève les mains vers Dieu et dit Dieu aide-moi. Et il est sérieux.
Monsieur.
C'est pas par routine qu'il le fait, il est sérieux.
Il y croit.
Alors la Gemara pose la question et dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors c'est intéressant parce que c'est pas une Gemara qu'on a dans notre Gemara, c'est une version dans le En Yaakov. Vous savez que la Gemara, on s'abaisse sur des manuscrits. Donc dans le manuscrit de la Gemara sur lequel s'abaisse notre Gemara, la grande Gemara, il n'y a pas ce que je vais vous dire maintenant. Mais dans la version de En Yaakov, il y a ça. Et il dit comme ça, il pose la question, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi le voleur, il invoque Dieu? D'accord? C'est quoi la réponse? La réponse qu'il dit là-bas, c'est très simple. Il dit parce que, il y a deux raisons pourquoi une personne est croyante. Soit parce qu'il a compris qu'il faut être croyant, soit parce qu'au fond de lui, il est croyant. Le problème du voleur, c'est qu'il n'a pas compris pourquoi il doit être croyant. Mais au fond de lui, il est croyant. Donc c'est pour ça, avant de commettre son larcin, au fond de lui, il se rappelle qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut demander à Dieu. Donc il le fait. Maintenant, c'est quoi son erreur? C'est qu'il n'a pas fait descendre la Emouna dans la vie de tous les jours. Donc il vole. Il vole, il est mamine en même temps en Dieu. Mais on peut pas enlever la Emouna. C'est ça ce qu'on est en train d'expliquer ici. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est inné en nous. La Emouna qu'on a en nous, le fait qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc, pour répondre à ta question, pareil par rapport à ceux qui étaient avec le prophète Daniel, ils pouvaient, leur Emouna, si tu veux, leur vue, leur vision de ces anges n'était pas physique. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose qui pouvait s'expliquer. Mais ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui les dérangeait. Ils sentaient quelque chose qui les dérangeait. Ça explique beaucoup de choses. Hein. Tu sais, des fois, par exemple, il y a des gens, par exemple, on rentre dans des situations ou dans des choses qu'on supporte pas. T'as un malaise. Tu rentres dans un endroit, tu sens pas bien. Tu sens que t'as un blocage. Mmh. Ça arrive surtout aux femmes, ça. Mais bon, alors, tu vas dans un endroit, tu sens pas bien. Tu sens que ça s'accroche pas. Tu dis, mais il y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Ça vous arrive des fois ça? Tu vas dans un endroit ou une personne des fois. tu parles avec une personne et tu sens pas, il y a un truc qui te dérange. Ça vous arrive?
Non.
Ça t'arrive jamais? Tu parles avec quelqu'un ou t'es dans une situation, tu rentres dans un endroit, tu sens un malaise, tu sens que ça vous arrive jamais, je suis fou ou quoi?
Non, mais des fois tu peux te conditionner aussi.
Non, c'est pas conditionné, non. Justement, ça le piège.
C'est réceptif ou pas?
C'est que des fois tu sens un malaise, c'est pas pourquoi. Parce que la Neshama, elle ressent des choses. Elle ressent qu'il y a des choses qui se sont passées ici, elle ressent. Il faut pas prendre ça à la légère. C'est des choses sérieuses. Ok. Ubaze Yuvan. Allez, maintenant on va aller dans les mots. Ubaze Yuvan, avec ça on va comprendre. Lama. Vous avez dans les mots? Page 291.
C'est un chat qu'on peut ressentir un peu, plus que dans des endroits de.
Pas seulement.
Les deux. C'est-à-dire qu'il y a des.
Mais je pense que c'est une mise en condition aussi.
Il y a des fois des. Tu sais qui c'est qui ressent ça beaucoup aussi? Les enfants. En fait. Les enfants par exemple. Les enfants ils ressentent beaucoup ça. Ils voient quelqu'un par midi, il me fait peur celui-là. Il sent une énergie négative. Chacun de nous dégage une énergie. Seulement, on ne fait pas attention à ça, mais on dégage des énergies. Il y a des gens qui dégagent des énergies négatives. Et surtout les enfants et les gens qui sont sensibles à ça, ça les dérange beaucoup. Tout de suite, ils captent et ils font un blocage. Exactement. Ils sentent une personne qui a une énergie négative. Bon, on va revenir sur texte.
Dans l'histoire, c'est marqué que Daniel a eu peur, non?
Non,
parce que Daniel a vu et eux ils ont eu peur.
Et ils ont eu peur.
Il n'a pas eu peur, Daniel.
Non, il a eu peur dans le sens qu'il a vu.
Il a juste vu.
Voilà, il a vu.
Donc il a pu voir sans avoir l'apparence d'avoir peur. Pourtant eux ils ont peur sans avoir rien vu. C'est ça la question.
C'est ça.
Leur neshama.
Non, quand on dit ils ont eu peur, c'est pas qu'ils ont eu peur.
Ils ont senti un frisson.
Voilà, ils ont senti quelque chose. Ils ont senti quelque chose qui les dérangeait. Donc au Bazeyuvan, avec ça on va comprendre. Lama gadlama lat esek batora. Pourquoi c'est important la qualité du esek batora? De se préoccuper dans l'étude de la Torah. Pas seulement d'étudier les halakhot. De se casser la tête dans la Torah. Yoter mikola mitzvot. Bien plus que toutes les mitzvot. Ça, c'est le thème du cours d'aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que c'est quoi la Torah? La Torah, c'est un mode d'emploi pour savoir comment on fait les mitzvot. Beaucoup de gens pensent comme ça. Les mitzvot, c'est le comportement. Et la Torah, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi qui te donne le comportement. Donc, en d'autres termes, si tu suis comme ça, ça veut dire, si j'arrive à faire un condensé de lois qui me donne toutes les lois que je dois faire sans passer par tout le développement, ce qui compte, c'est que j'ai mes mitzvot. Si tu penses que la Torah, c'est juste un manuel, un mode d'emploi pour me dire comment je dois faire, bah, si j'arrive à condenser ce manuel, pourquoi tu veux que je me casse la tête? Quoi ça sert? Ce qui est une erreur. La Torah, c'est pas un mode d'emploi. C'est pas un mode d'emploi pour savoir comment faire les mitzvot. La Torah, le fait même d'étudier la Torah, c'est déjà un but en soi. Même si je n'y comprends rien, même si je n'y arrive pas à aucune conclusion, et même si j'étudie des choses qui vont jamais me concerner. Je vous donne un exemple.
Regardez. C'est la chassidoute.
En fait, tout le monde dit ça. Je vous donne un exemple. Regardez. Par exemple, le dimanche soir, je vais à un cours, tous les dimanches soirs, je vais à la rue de Martine, un cours de Gemara. Cette année, on étudie la Gemara Gittin. Une Gemara qui traite des divorces. Comment écrire des rédiger des actes de divorce? J'espère ne jamais divorcer, si Dieu veut. Et je pense pas qu'un jour, je vais rédiger des actes de divorce. Enfin, je me vois pas le faire. Alors, je peux me dire, je perds mon temps. À quoi ça sert? J'étudie un truc qui n'est pas d'actualité, qui sert à rien. Je sais pas, c'est comme un qui fait des études, tu vois, il va à la fac, il fait des études, mais il sait très bien qu'il les utilisera jamais. Alors, ses parents vont lui dire, mais tu perds ton temps, laisse tomber, arrête, ça suffit. Et pourtant, on le fait. D'accord? On l'utilise juste comme ça. Autre exemple. Ça fait quelques années, on a étudié là-bas la Gemara du traité Yevamot. C'est quoi Yevamot? Une femme qui est décédée, enfin un mari, pardon, qui est décédé sans laisser d'enfant, sa femme, elle va se remarier avec le frère. On fait plus ça aujourd'hui, ça n'existe plus. Tant qu'on en existe, on le fait plus. Alors qu'est-ce que tu étudies? À quoi tu étudies?
Mais ça, c'est
on fait la khalitza. Pas le hiboum.
Non, mais ça, c'est fait à l'époque.
Ça, c'est fait à l'époque. Concrètement, on ne le fait pas aujourd'hui. Donc, tu étudies. Donc, c'est une mitzvah la Torah. Mais ça veut dire concrètement, ça fait déjà plusieurs siècles qu'on ne l'a pas fait.
Il y avait une cérémonie pour faire
la khalitza. Khalitza, on le fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étudie quelque chose qui n'est pas d'actualité. Et c'est ça ce qu'il va t'expliquer. Il te dit, le but de la Torah, c'est pas seulement d'étudier un mode d'emploi pour savoir comment je dois me comporter. Pas du tout. Le but de la Torah, c'est l'étude en soi. Le fait même d'étudier la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même si maintenant c'est pas d'actualité, c'est déjà une mitzvah. D'ailleurs, en passant, l'Admor HaZaken, dans un autre endroit, il faut remarquer que nous avons 613 mitzvot. Dans la pratique, combien de mitzvot une personne peut faire? Aujourd'hui, 207. Le maximum. Même s'il est Kohen, voilà. On va dire une personne qui est Kohen, qui a tout ce que tout, le maximum de mitzvot qu'on peut faire, 207 sur les 613. Et je vais vous dire, même à l'époque du Beth Amikdash, personne ne pouvait accomplir 613 mitzvot. Il y a des mitzvot pour le roi, des mitzvot pour le Kohen, des mitzvot pour le Kohen Gadol. Il y a des mitzvot pour tout. pour
elles sont faites pour plusieurs
alors,
vies. Alors.
Alors, elles sont quoi?
Elles sont faites pour plusieurs vies.
Alors justement, comment ça fonctionne? L'Admor HaZaken, il pose cette question. Il répond comme ça. Il dit que les mitzvot, elles sont faites pour être accomplies, mais elles sont faites aussi pour être étudiées. Et même si je ne peux pas faire une mitzvah, je peux toujours l'étudier. D'où l'important, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle le Rabbi a lancé la campagne que tous les jours on dit la mitzvah du Rambam et qu'en un an on fait le tour des mitzvot. Maintenant, pour les deux tiers, c'est les mitzvot qui ne nous concernent pas, qui ne nous parlent pas. C'est pas des mitzvot qu'on va côtoyer dans la vie de tous les jours.
On le voit
clairement, c'est des mitzvot qui nous parlent pas. En ce moment, on parlait des mitzvot des champs, des terrains, des choses comme ça, du jubilé, des choses. On ne fait pas aujourd'hui, c'est terminé. Il y a pas, on est en exil. Mais c'est très important de les étudier. Parce que quand tu étudies une mitzvah, quelque part, c'est comme si tu l'as faite. C'est ce que je vais expliquer ici. Ce qui est dit ici, c'est que l'importance d'étudier la Torah, c'est important plus que toutes les mitzvot. La Torah n'est pas seulement un mode d'emploi pour savoir comment je fais les mitzvot. La Torah est un but en soi, le fait d'étudier la Torah. Va filou mitfila. Et je vais vous dire plus que ça. La Torah est plus importante que les mitzvot, et plus importante même que la tefila. Chez où yichud ilamot elohim. Vous savez ce qui se passe quand on fait la tefila? Quand je fais la tefila, on est en train de faire des choses extraordinaires dans les sphères célestes. Et bien la Torah, ça passe avant. Vous savez de qui on apprend ça? On apprend ça de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai était une des rares personnes dans le Talmud qui avait l'appellation Torato Umnato, ou Umanuto. La Torah est son métier. Et les gens qui ont cette appellation, il y a eu très très peu de gens dans l'histoire qui ont eu cette appellation, c'est des gens qui sont exemptés de la tefila. Rabbi Shimon Bar Yochai était exempté de la tefila. Il n'y a pas, fais pas la tefila.
Mais par quelle décision?
Quand je serai à ce niveau, je pourrai te répondre.
Non, mais... Qui c'est qui lui donne le titre?
Il n'y a pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas, des gens comme ça. Ça n'existe pas. Et la Gemara, elle pose la question. Elle dit, dans ce cas-là, comment ça se fait que... Alors, dans ce cas-là, imagine-toi maintenant que moi, je suis en train d'étudier et qu'arrive l'heure du schéma. Est-ce que je m'arrête pour faire le schéma?
La tefila, ce n'est pas le schéma.
Non, d'accord. Même l'heure de l'amida. Est-ce que je m'arrête pour faire l'amida? Moi, je m'arrête. Alors là-bas, le commentateur pose la question, il dit, pourquoi tu t'arrêtes? En train d'étudier, c'est plus important d'étudier. Ils te disent non. Ils te disent parce que de toutes les façons, ton étude, tu devrais l'arrêter. Tu vas pas la faire pendant 24 heures sur 24. Donc puisque toute la façon tu vas l'arrêter, c'est pas juste de dire non, maintenant je suis occupé, je m'arrête pas pour faire la tefila. Non, toute la façon tu vas t'arrêter dans quelques minutes. Alors arrête-toi pour faire la tefila. Mais quand c'est une personne qui ne s'arrête pas et que la Torah c'est son métier, ça veut dire que la Torah est son centre d'intérêt principal, eh ben une personne comme ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que la Torah est au-delà de tout. Il s'arrête pas, il s'arrête ni pour prier, ni pour faire la tefila, il s'arrête pour rien du tout. Il fait que la Torah, il fait que étudier la Torah.
Mais quand même les tefilines.
D'abord, il mettait les tefillines toutes les journées. Et même s'il met les tefillines, il met les tefillines 30 secondes avant de faire le Shema Israël. Il y a un avis qui pense qu'il y a une personne qui est Torato ou Mnato. Il fait juste Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem qui va retourner à l'Anved. Il s'arrête là. Et ça, c'est sa tefillah de la journée. Ouais. Et après, il étudie.
C'est la profession de
tu comprends, mais là-bas, la Gemara a dit qu'on parle de gens. On parle de gens qui étaient tellement dans l'étude qu'ils oubliaient de manger.
Oui. Ils n'avaient pas le temps de
manger. Tu comprends? Par exemple, on raconte là-bas, la Gemara raconte dans Brachot sur Hillel, Hillel l'ancien. Elle dit que Hillel, dès qu'arrivait l'heure du repas, il disait à ses élèves, je vais aller faire du chesed avec la pauvre. De qui il parlait quand il parlait de la pauvre?
La pauvre, c'est l'âme animale.
Il parlait de l'âme animale. Ouais. C'est-à-dire, quand il allait manger, tu vois, il va faire du chesed avec l'âme animale. C'est comme ça qu'il voyait la chose. C'est-à-dire qu'il était dans une autre planète. C'est pas, il a faim, il va manger. Il attend le bon steak. Il y a pas. Il va faire du chesed parce qu'il sait qu'il est un animal, on va pas la laisser en plan, on va lui donner un pain à manger, comme ça nous laisse tranquille. C'est autre chose. En tout cas, ce qu'on voit d'ici, c'est quoi? C'est que la Torah est au-delà de tout. La Torah est au-delà de tout. Quand on arrive à ce niveau-là, la Torah est au-delà de tout. La Torah est au-delà des mitzvot, la Torah est au-delà de, même de la tefila, au-delà de tout. Dans la parenthèse, il dit, Veha, demishen, torato, umanuto, tzerch, lafsik. Le fait qu'une personne, que la Torah n'est pas son entière occupation, il doit s'arrêter, comme on a expliqué. Celui qui n'est pas de votre Rabbi Shimon Bar Yochai, dès qu'arrive l'heure de la tefila, il doit s'arrêter pour faire la tefila. Pourquoi? Ça, c'est parce que, pourquoi il doit s'interrompre, comme c'est quand c'est fait du tranché. Mais, achar, demafsik, ou me vatel, belavari. Parce que de toutes les façons, il se serait interrompu pour faire autre chose. Mais c'est-à-dire, si ce n'était pas le cas, il se serait pas interrompu. Ça veut dire que, ni il s'interrompt pour une mitzvah, ni il s'interrompt pour la prière. Il reste à étudier la Torah. La Torah est au-delà de tout. D'accord? Pourquoi? Parce que quand j'étudie la Torah, je deviens un avec Akadosh Baruch Hu. Voilà. Maintenant, la Admor HaZaken te dit, quand tu réfléchis à tout ça, tu t'imagines que, au misé yuchal amaskil, de ça, celui qui veut réfléchir, il peut donc réfléchir, le hamshich alav yirak de la boskoba Torah. Quand tu étudies la Torah, quand tu étudies la Torah, il y a deux sentiments possibles. Soit un sentiment d'amour, soit un sentiment de crainte. Soit un sentiment d'amour dans le sens je kiffe grave ce que j'étudie, donc c'est un plaisir. Bon, soit un sentiment d'indifférence, ça c'est possible aussi, mais bon, soit un sentiment d'amour. Et là, il te dit, quand tu entends ce qu'on vient de te dire ici maintenant, que quand tu étudies la Torah, tu t'unis avec Akadosh Baruch Hu, et que c'est tellement fort de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, que tu deviens un avec Akadosh Baruch Hu, et que c'est au-delà des mitzvot, au-delà de la tefila, et que tu fais un seul corps avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu entends ça, tu dis, mais attends, tu t'imagines, c'est très grave ce que je suis en train de faire. C'est quelque chose de très très spécial que je suis en train de faire. C'est pas juste, je suis pas juste en train d'étudier quelque chose. Je suis en train de faire rentrer en moi la Torah, la Chorma d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Il dit que quand tu réfléchis à ça, tu peux t'imaginer à quel point les Hamshir Halad Irak de la Boskova Torah, comment la personne devrait avoir une grande crainte lorsqu'il étudie la Torah, Kishit Bonen, lorsqu'il va réfléchir. Comment chez Nafsho ou le Vouchash, je me refuse, quand je réfléchis que quand je vais étudier la Torah, mon cerveau, ma bouche, mes oreilles, tous mes sens sont utilisés exclusivement pour faire entrer en moi la Chorma d'Akadosh Baruch Hu, quand je réfléchis à ça, je me dis, mais tu t'imagines, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de dire. Ça fait peur quand on entend quelque chose comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont approchées de la chassidoute. On avait étudié ça aussi un petit peu dans le chapitre 5 du Tanya. Il y a beaucoup de gens qui sont approchés de la chassidoute et qui ont dit qu'un des chapitres qui les a marqués le plus, c'est le chapitre 5 et ce chapitre-là. C'est les gens qui étudiaient la Torah avant. Parce qu'on n'étudie pas la Torah que chez les chassidim. Mais la question est, pourquoi tu étudies la Torah? Est-ce que j'étudie la Torah parce que ça me fait plaisir? Est-ce que j'étudie la Torah parce que ça va m'amener de l'ego? Et mon ego est très content, parce que quand j'ai compris quelque chose, quand on me tape sur l'épaule, etc.
On veut accomplir aussi.
Non, mais il n'y a pas de problème. Si tu veux... Excuse-moi Yves. Non. Si tu veux étudier la Torah pour accomplir, tu perds ton temps d'étudier la Gemara. C'est une perte de temps.
Parce qu'il y a beaucoup qui ne concernent pas. D'accord.
C'est pas beaucoup, c'est la majorité qui ne concerne pas. D'accord. 99% de la Gemara ne concerne pas.
On va commencer par étudier ce qui nous concerne alors. Le Watt Shabbat.
Ah non, ben voilà, c'est, on a dépassé ce stade maintenant. Là, maintenant, ça veut dire, c'est l'erreur que tu dis. Ça veut dire comme ça. Non, mais c'est important ce qu'il dit. Il dit étudier la Torah uniquement pour savoir les mitzvot que je dois faire, ça ne s'appelle pas étudier la Torah. Ça s'appelle étudier, mais pas être osek batorah. Osek batorah, ça veut dire mettre la tête dedans.
Mettre dans les affaires.
Comme dans les affaires. Exactement, comme dans les affaires.
Il faut oublier la partie.
Comme Birkat Aïsek, c'est la même chose.
Ça veut dire. Le côté mode d'emploi, il faut l'oublier.
C'est faire son travail.
Côté mode d'emploi, c'est Shulchan Aruch. Tu prends un kitur sur Shulchan Aruch, t'as le mode d'emploi. Tu l'as fini, tu prends 2-3 jours, tu t'assois, tu retiens, c'est fini, tu l'as fait. Ne prends pas la tête à répéter tous les jours, il n'y a pas besoin, c'est pas nécessaire. Quand on étudie la Gemara, quand on étudie le Chumash, quand on étudie des choses comme ça, la majorité des choses ne nous concernent pas. Ça ne nous parle pas. Et pourtant, on les étudie. Pourquoi on les étudie? Parce que quand on les étudie. Alors justement, pourquoi tu les étudies? Là, il y a la question, pourquoi tu les étudies? À part le. Est-ce que c'est parce que ça me fait plaisir?
Est-ce que ça a à voir avec ce que l'on racontait en troisième, quand on était en troisième, en français, ou en seconde en français, on nous disait comme ça qu'il y avait un, comment il s'appelle, un écrivain français qui s'appelait Rabelais, et qui disait comme ça, quand on étudie un texte, on étudie la substantifique moelle, c'est-à-dire on sort le corps de la lettre. Le cœur qu'il y a dans la lettre que le mec il a écrit pour raconter ce qu'il devait raconter, au lieu de se limiter aux mots et aux textes et aux phrases et aux machins.
C'est l'émotion qu'il avait au moment où il a écrit.
Voilà. Quand on va chercher le texte, on va chercher ça. Sinon, ça n'a aucun intérêt.
Dans la Torah, on explique comme ça. En tout cas, en
chassidoute. C'est ça, étudier la Torah?
C'est plus que ça. Oui, c'est à peu près ça, mais c'est encore plus que ça. Dans la chassidoute, on dit comme ça. On dit que les mots sont un moyen pour véhiculer une idée. Moi, j'ai ressenti quelque chose de très puissant.
Donc, je ne peux jamais aller chercher l'idée, alors.
Je vais expliquer. Moi, j'ai ressenti quelque chose de très puissant. Je vais retranscrire dans des mots. Pourquoi je retranscris dans des mots? En espérant qu'une autre personne qui va relire ce texte, il va retrouver la même inspiration que moi. Si c'est le cas, c'est que j'ai bien écrit mon texte. D'accord. Si ce n'est pas le cas, c'est pour ça que les textes, comme les textes de la Gemara, de Rashi, etc., du Chumash, chaque fois que tu le repasses, tu retrouves une nouvelle profondeur. Parce que c'est des textes qui ont une profondeur inouïe. Des profondeurs.
Ça, c'est vrai si le texte parle. Si c'est quelque chose, finalement, qui a un rapport avec ton vécu ou ton quotidien. Là, tu parles de textes qui parlent des champs, des machins. Ok, d'accord, c'est bien sur moi. Mais comme ça ne te parle pas d'un point de vue pratique, tu as moins de force à t'attacher.
C'est ça ce qu'il dit ici. C'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de textes de Torah pour s'attacher sur le plan pratique. Ça, c'est le Shulchan Aruch.
Pratique, c'est-à-dire quelque part avoir fait un parallèle avec ton quotidien. C'est quand même plus. Ça nous parle plus si on parle d'Alachot ou de machin qui sont dans notre quotidien.
Alors
on va parler de
c'est pas intérêt.
Voilà.
C'est écrit comme ça. C'est écrit qu'une personne, son étude, il doit la toujours diviser en trois. Comme dans les affaires. Il ne faut jamais mettre tous les deux dans le même panier. L'étude doit diviser en trois.
Les placements.
Shlish be Mikra, Shlish be Mishnah, Shlish be Talmud. Un tiers, c'est écrit en Shulchan Aruch. Un tiers, Chumash. Un tiers, Mishnah, ça veut dire Halakha. Et un tiers, Gemara. trois tiers. Maintenant, après, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, est-ce que c'est des tiers de la vie ou des tiers de la journée? Il y en a qui disent que tous les jours, on doit avoir un tiers, un tiers, un tiers. Et tu vois des rabbinis, tu vois, dans leur table, ils ont tous les vies.
Par contre, que Bishosek Bet Talmud, il a fait les trois.
Donc, oui, mais Talmud, il y a les trois. À condition qu'il étudie le Chumash.
Non,
c'est pas du Chumash. Oui, d'accord, c'est pas du Chumash quand même. Donc je reprends. Ta question, par rapport à ta question, Yves. On a tendance, on a souvent tendance à vouloir assister à des cours de Torah de choses concrètes.
Oui.
Des choses qui nous parlent. Des choses que je dis, je le fais, je veux savoir comment je dois me comporter. Viens ce chapitre pour t'apprendre, que c'est pas ça l'étude de la Torah. L'étude Rosek Batorah, c'est étudier parce qu'il faut étudier, même si ça ne nous concerne pas. C'est pas grave.
Ça veut dire qu'il faut tout étudier.
Il faut tout étudier.
Tout étudier. Sans restriction aucune, sans chercher à l'application, etc.
Ce matin, par exemple, ceux qui étaient là au cours ce matin, on a parlé de la ville déchue. Et la ville de ceux qui ont fait Avodah Zara, qu'il faut détruire la ville, etc. On a expliqué que dans la pratique, il y a tellement de restrictions pour arriver à ça, c'est pratiquement impossible. Et aujourd'hui, c'est sûr, ça n'arrivera pas. C'est impossible. Après, on l'étudie. Parce que c'est la Torah. Ça ne doit pas forcément avoir de but concret.
En gros, si tu as une approche intellectuelle du sujet, tu vas te dire, tout a été prévu. On arrive à trouver des choses qui ne sont même pas applicables aujourd'hui, on n'y pense pas, mais tout est prévu dedans.
Oui, mais encore une fois, ça veut dire, chercher à étudier la Torah pour te dire, je vais peut-être trouver des secrets qui vont m'aider aujourd'hui, c'est déjà une erreur. Tu comprends? C'est ça qui veut t'expliquer ici. C'est que le but d'étudier la Torah, ça doit être désintéressé. Je le fais pour Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Et je me dis que je m'attache avec Akadosh Baruch Hu. Dès que tu le fais par un ego, tu le fais parce que tu veux, parce que tu as envie de kiffer, parce que tu as envie d'avoir du plaisir, parce que tu as envie qu'on te respecte, parce que tu as envie qu'on te donne du kavod, tu es déjà à côté de la plaque.
Mais pas seulement. C'est-à-dire, je comprends ce que tu dis. Je dis juste que dedans, il y a tout.
Je suis déjà. Hein?
Non, il y a tout.
Oui.
Des choses auxquelles on ne pense même pas. Mais
tout est dans la Torah, ça c'est clair. Comme dit le Ramban, les kamilé de l'armisa boreta, il n'y a pas une chose qui n'est pas allusionnée dans la Torah. Ça c'est clair. Mais pas, ça n'existe pas. Mais c'est pas pour ça qu'on étudie la Torah.
D'accord.
Voilà.
Enfin, moi, je partais du principe que tu avais là-dedans tout, certes, que ça n'est pas forcément applicable, mais tu es tenu de l'étudier. Que tu y trouves un intérêt ou pas.
Tu es tenu de l'étudier. Exactement. C'est ce qu'il dit ici.
Tu vas prioriser certaines études, peut-être.
Bien sûr, mais après, il faut varier. Oui, il faut varier.
Parce que c'est plus pratique.
Il faut apprendre des choses qui m'intéressent, c'est sûr, ça. Mais il ne faut pas forcément chercher que des choses qui ont une application pratique. Parce que sinon, on ne vient pas être au cours de Gemara, ça ne sert à rien.
Le cours de Gemara n'est pas un coq à l'âne, donc forcément, c'est pas de, tu vas trouver tellement de sujets dans une même Gemara.
Après, il y a des cas qui vont nous concerner, mais ça veut dire, voilà, on étudie actuellement, par exemple, les halakhot, en ce moment, le matin, le Mishnah, c'est très intéressant d'ailleurs, au Hachem, c'est intéressant, mais on étudie en ce moment, le lundi matin, le Mishnah du Sanhedrin, du tribunal.
Oui, donc
combien de juges on a dans la salle? On a un avocat.
3,
23, 60. Mais combien de juges on a dans la salle? Qui va devenir juge ici? Personne. Alors à comprendre, tu dis ça. C'est de l'étude, c'est tout.
On juge pas mal de choses. On peut dire, on juge, est-ce que c'est bon, c'est pas bon.
Alors, dans les mots. Il dit ici, donc avec ça, il va expliquer maintenant comment, quand on réfléchit à tout ça, on s'imagine comment étudier la Torah, c'est quelque chose de très très puissant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comment étudier la Torah, on devrait avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu quand on étudie la Torah. On dit que, vous savez ce que dit la Gemara? La Gemara dit que quand je répète un Dvar Torah au nom d'un maître, je dois m'imaginer comme si que la bouche de ce maître est en train de bouger dans sa tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire?
Oui, mais là on fait référence à la puissance, justement.
C'est une puissance énorme. Ça veut dire quand je dis un Dvar Torah, moi je crois juste que bon, j'étudie un texte intéressant, soit il m'intéresse, soit il ne m'intéresse pas. On te dit non. Quand tu étudies un texte de Torah, tu attrapes quelque chose. Et quand tu l'attrapes, automatiquement, tu véhicules un tas de choses. Tu véhicules le Rav qui a donné ce texte avec toi. Tu véhicules Dieu qui a inspiré ce Rav. Tu véhicules tous ceux qui ont étudié ce texte avec toi. C'est énorme, c'est des choses qui se passent. Ah, je ne les ai pas ressentis. Maneshama les a ressentis.
L'écho, il ne s'arrête jamais.
L'écho ne s'arrête jamais.
Donc finalement, il n'y a que des connexions dans tout ce que tu as
dit. Exactement.
Il n'y a que des connexions.
Que des connexions.
Tu crois que
tu
es isolé, seul dans ton coin, mais impossible. Il y a que des connexions.
Tout est connecté.
Sur un bouton, il y en a 10 000 qui s'allument.
Bien sûr. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. Alors, dans les mots, on va continuer. Donc,
je vais me faire tenir le monde.
Bien sûr. C'est écrit que la Torah fait tenir le monde. C'est écrit clairement. La Torah fait tenir le monde. Maintenant, tu peux comprendre ou pas comprendre, ça ne change rien.
Ah, d'accord, ok.
Par exemple, c'est un sujet un peu polémique, mais bon, il faut le dire quand même. Quand tu as, par exemple, les élèves de Yeshiva qui sont en Israël. D'accord? Ils sont en Israël alors qu'ils ont leurs frères qui vont à l'armée. Il faut savoir que quand un élève de Yeshiva est à la Yeshiva, il protège la terre d'Israël au moins autant qu'un soldat. C'est sûr.
C'est certain.
C'est clair. Ça, la Gemara le dit, tout le monde le dit, c'est clair. Maintenant, je le vois pas. Physiquement, je le vois pas. Ça change rien si tu le vois pas. C'est la réalité. Nous, on est croyants, on sait que c'est ce qui est écrit.
Non, mais dans le cas précis, ce que voulaient les Israéliens, c'est que les élèves de Yeshivot, qui jusqu'à aujourd'hui ne faisaient pas la
Yeshiva, ça c'est autre chose, et qu'ils n'étaient pas à la Yeshiva,
qu'ils n'avaient pas besoin de creuser, de faire.
Là, il y a un nouveau gouvernement, là. Ils vont bientôt se mettre d'accord.
Il va parler avec un peu. Lors de là, au mois de juillet, ils ont vu ça clairement. L'apport des étudiants de la Yeshiva qui sont allés jusqu'aux limites pour apporter les aides pour leur matériel fine, etc. Et ça a été accepté comme étant une contribution importante.
Oui.
Donc on n'est pas allé voir qu'ils ne faisaient pas l'armée pour ne pas faire l'armée.
C'est pas grave.
C'est vrai, non. Je suis d'accord à 100%. C'est vrai. C'est normal. On ne peut pas être là glandé alors que d'autres sont en train de donner leur vie. C'est pas possible.
Non, ce n'est pas une question de glander. Chacun son rôle, c'est tout.
Non, c'est-à-dire qu'on a des
gens dans l'infanterie. Il y en a qui sont dans les tefilines.
Voilà. Mais il faut être à l'étude.
Mais il faut être là. Mais il y en a beaucoup qui l'ont décrié.
Tu peux faire de la Torah de terrain, parfois.
C'est ce qu'il y a. Moi, je sais que quand j'étais à la Yeshiva, j'étais à la Yeshiva en Israël, à Yerushalayim, dans les années 2000. C'était à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait beaucoup l'attentat à Yerushalayim, chez Mishpar, il y avait aussi l'attentat au Parc Hotel à Natania. Ouais. Et c'était, j'étais là-bas en Israël. J'étais revenu pour Pessah ici, mais j'étais là-bas en Israël. Ouais. Juste avant, juste après. Et il y avait la guerre, je crois que ça s'appelait le rempart de sécurité, Romat Magal, je crois. En tout cas, il y avait une guerre.
En février, alors.
Et je me rappelle, non, la guerre avait démarré juste après Pessah. La guerre, vous avez encerclé la maison d'Arafat, etc.
Oui, 2003.
Et je me rappelle quand j'étais là-bas, je me rappelle comment, quand les soldats partaient en guerre, ben nous, à la Yeshiva, le rabbanim nous disait, ne perdez pas une minute d'étude.
Ah oui, c'est ça.
Ça veut dire, nous on est là, mais. Et dès qu'il voit un élève qui commence à faire, il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? C'est normal. Enfin, il faut être conscient de sa responsabilité. Alors, chez Kol, on comprend dans les mots. Kshayit Bonen. Alors, on est en haut de la page 292.
C'était le 27 mars 2002, exactement, l'attentat.
C'était quand?
Le 27 mars.
En 2002, ouais, c'est ça.
Parc Hôtel.
Ben, c'est juste après, il y avait eu la guerre, je me rappelle. Chez Bonen, Ershenafcho, ou Vouchea, chez Bemocho, ou Befiv, Amuradi, Mamash, Betarletaïrout. Quand je vais réfléchir, que je vais avoir une grande crainte, quand je vais réfléchir au fait que quand j'étudie la Torah, mon âme divine, elle est unie, ainsi que mon cerveau, ma bouche, tout, etc., tous mes membres, ils sont unis. Amuradi, Mamash, Betarletaïrout, Brassenalion. Ma tête est occupée à comprendre la volonté de Dieu. J'ai la volonté de Dieu dans ma tête, dans mes oreilles, dans mes yeux, dans ma bouche, dans mon cerveau. C'est la volonté de Dieu qui emplit mon cerveau. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple, si je peux me permettre. Autant, par exemple, on sait que lorsqu'une personne, par exemple, est amoureux de quelque chose, il n'est pas amoureux qu'avec son cœur, il est amoureux avec toute sa tête et tout son corps. Ça veut dire que ses mains, elles tremblent, ses pieds, ils tremblent, son cœur, il tremble, sa tête, elle tremble, tout tremble, ses yeux, ils vibrent, tout vibre. Imaginez que quand j'étudie la Torah, c'est tous mes membres qui sont en fonction, qui sont en train de vibrer pour aller vers Akadosh Baruch Hu, d'étudier la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais tu t'imagines? C'est-à-dire, je suis en train de prendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, j'ai un morceau d'Akadosh Baruch Hu en moi. Ça fait trembler. C'est très, très, quand tu arrives à ressentir ça, c'est énorme. Ce qu'il dit ici. Mashekol haolamot, elyonim vetartonim, kelach hashive kame, ukain vefes mamash. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici. Il dit que, à part les neshamot comme nous, qui étudient la Torah ici-bas, qui arrivent à apprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce niveau-là, personne l'a par nous. Même au Gan Eden, ils l'ont pas. Ni les Gan Eden, ni les Malachim. Ça veut dire, ce niveau-là, d'être capable d'intégrer Akadosh Baruch Hu en nous à 100%, personne l'a par nous. Les autres en haut, ils comprennent, etc. Mais ça reste autour d'eux.
Ils ressentent pas.
Mais nous, on a un défaut qui est une qualité. Ce qu'il va expliquer dans la suite. C'est intéressant. Parce que, on a un défaut qui est une qualité. C'est quoi le défaut? Le défaut qu'on a, c'est qu'on ressent pas. Mais du coup, comme on ressent pas, alors Akadosh Baruch Hu, il peut nous montrer des choses extraordinaires. Parce que de toutes les façons, on ressent rien. En haut, c'est la Gemara a dit, si Dieu y montrait en haut, au Neshamot, une partie infime de ce qu'il nous montrait en bas, le Neshamot n'aurait pas tenu. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'en haut, on a une qualité qui est un défaut. C'est quoi la qualité? C'est qu'on arrive à voir. Du coup, comme tu arrives à voir, tu es obligé constamment de mettre des protections, parce que sinon tu vas te brûler. Ici, on voit pas. Comme on voit pas, Dieu peut nous envoyer tout ce qu'il veut, parce que de toutes les façons, on voit pas. Donc du coup, c'est là, et on en profite. D'accord? C'est-à-dire, d'un côté, on n'y voit pas, mais d'un autre côté, ça se trouve ici, on est ici, on en profite. Donc, ou kain vefes mamash, in acheino mitlabesh betocham mamash, eila, sovev kolalmin, du prinat makif, la chayotam ikachayutam, rak ezo ahara, mitlabeshet betocham, mashe yukolim lisbol, chez le betou mitziout le gamre. Qu'on a expliqué. On a dit qu'en haut, les neshamot d'en haut, elles sont incapables d'avoir un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Elles en touchent un tout petit peu. Nous, notre chance qu'on a, c'est que comme on ressent rien, donc du coup, Akadosh Baruch Hu, il peut nous envoyer, il peut nous tout ce qu'il veut, de toutes les façons, on ressent rien, donc il nous envoie le plein gaz. C'est ce qui est écrit.
On est déjà irradié.
Non, c'est pas qu'on est irradié. Oh, attention. C'est-à-dire, on a un défaut qui est une qualité. Voilà, ça, c'est ce que je vais expliquer. Et d'ailleurs, on explique comme ça. On dit que Akadosh Baruch Hu, c'est tant mieux qu'il nous a mis comme ça, parce que sinon, on aurait été incapable de supporter. On dit, par exemple, que la Gemara dit comme ça. La Gemara, enfin, c'est Rashi qui dit ça, mais c'est vrai de la Gemara. Vous connaissez, vous rappelez l'histoire de l'ânesse avec Bilam?
Oui.
D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'ânesse qui était, donc Bilam il est monté sur son ânesse, ils avançaient dans la route. Bon, à un moment l'ânesse elle va à droite. Alors Bilam il revient à gauche. Elle va à gauche, il revient à droite. Et à un moment il se remet dans un endroit dans lequel il y avait un chemin très étroit. Et là l'ânesse elle vire encore à droite. Donc du coup Bilam il se frotte les pieds. Et du coup il commence à frapper. Donc ça fait pour la troisième fois, il commence à frapper l'ânesse. Alors l'ânesse elle lui parle, elle dit pourquoi me frappes-tu? Et là, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il dit, Dieu a ouvert les yeux à Bilam. Et qu'est-ce qu'il a vu Bilam? Bilam, il a vu qu'en vérité, c'était pas de sa faute de l'ânesse. Il y avait un ange qui était là et qui poussait l'ânesse. Et que là, maintenant, si l'ânesse est en train de vouloir aller à droite, c'est parce qu'il y avait un ange qui est en train de la pousser. Alors là-bas, Rachid pose la question, il dit, mais pourquoi Bilam l'a pas vu, l'ange? Pourquoi il l'a pas vu? Et là-bas, Rachid dit quelque chose de très intéressant. Il dit parce que, à Kadosh Baruch Hu, on va expliquer comme ça, il a bloqué dans les fréquences de nos yeux qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que si on pouvait voir certaines choses, on serait devenu fou. C'est tellement puissant qu'on serait devenu fou. C'est pour ça que même Bilam, qui était un prophète, etc., il y a des choses que nos yeux ne peuvent pas voir. Et qu'un animal peut voir. L'animal le voyait. Pourquoi? Parce que l'animal, comme il comprend rien, donc tu peux lui montrer ce que tu veux.
Oui.
Mais l'homme, comme il comprend, t'es obligé de le bloquer. Tu peux pas tout lui montrer. Donc c'est le problème, le défaut qu'on a, c'est que comme on comprend, donc Dieu est obligé de nous brider, mais d'un autre côté, comme on est bridé, il peut envoyer ce qu'il veut maintenant, parce que de toute façon on ne voit plus rien.
Les animaux, on ne les comprend pas, hein? Ils font des trucs, des fois on ne les comprend pas.
Ah oui, les animaux, bien sûr.
Ils
ressentent des choses. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai un coup de barre terrible.
Ah, d'accord. Voilà. Vous avez chaud?
Non.
Pas allumer la clim si vous voulez. Vous avez chaud?
On peut rappeler la fenêtre.
Un peu de coca, hein? Monsieur Cohen, un peu de coca.
Non,
c'est... Il y a du lait.
Il y a du caféine.
Demain, j'ai un contrôle, je fais gaffe.
C'est
du zéro.
Il fait un peu chaud?
Non, il fait bon.
Non,
d'accord.
Non.
Ok. Alors, on continue.
Mais moi, je pensais qu'on n'arrivait pas à voir certaines choses parce qu'au fait, nos yeux étaient salis.
Pas forcément. Il y a aussi ça. Mais même un enfant qui n'a jamais été sali, il y a des choses qu'on ne peut pas voir.
Alors, comment ça se fait que ça dit qu'il verra plus de choses?
Il verra plus de choses, comme un enfant. C'est-à-dire que lui, il n'a pas été sali, donc c'est comme un enfant qui a gardé sa pureté.
Comme un enfant, il peut pas avoir plus d'enfant.
Non, pas possible. Il y a des choses qui sont bridées. Après, il y a des choses que le tzaddik, il arrive à deviner, etc. Mais les yeux, ils sont bridés. Il y a des fréquences qu'on ne voit pas.
Et le rabbi, il ne les voit pas physiquement.
Le rabbi, pareil.
Peu importe.
Il ne les voit pas physiquement de manière...
Il ne voit pas physiquement. Il va déduire, il va comprendre. Mais voir physiquement, il y a des fréquences que Dieu a bloquées dans nos yeux. Il ne peut rien faire. Comme les oreilles.
Il y a des
fréquences dans les oreilles, vous savez. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait le jeu. Là. Il y a des fréquences que plus on avance dans l'âge, et moins on peut les entendre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test.
J'entends
moi. Vous faire après, si vous voulez.
Oui,
tu fais un test, d'accord. Tu vois les gosses dans la salle, ils sautent. Et tu vois les adultes, ils ne bougent pas, ils n'ont rien entendu.
Ouais. Mais il y a des histoires avec le Harizal, qui ont vu les Wanavi, qui ont vu les Avod.
Ah oui. Une fois, je me rappelle, j'ai mis un son comme ça dans mon téléphone. J'étais au fond de la choule. Il y a Julien qui était de l'autre côté de la choule. Il a sauté.
Ouais.
Il a dit, mais c'est quoi ce vrai?
Ils sont au bac comme ça.
Hein?
Les enfants, ils entendaient. Pour l'instant, ils n'entendaient pas.
Ah ben oui, c'est impossible d'entendre. Hein? C'est quoi ce bruit?
Ouais.
C'est les fréquences. Je te ferai écouter après si tu veux. Ah oui, non. C'est parce que nos oreilles, il y a des fréquences qu'ils entendent, des fréquences qu'ils n'entendent pas. Mm-hmm. Comme les yeux, il y a des fréquences qu'on voit, des fréquences qu'on ne voit pas.
C'est comme les chauves-souris, elles émettent des sons qu'on n'entend pas, mais qu'elles entendent.
C'est comme, tu sais ce que c'est la lumière noire?
La lumière noire, c'est beaucoup de lumière.
C'est quoi la lumière noire? Pour nous, c'est noir.
C'est une
longueur d'onde.
Il y a des fréquences comme ça qu'on est incapable de voir. Ok. Donc c'est la même chose. Donc c'est un défaut qu'on a, qu'on est bridé. Mais ce défaut, d'un autre côté, permet à Kadosh Baruch Hu de carburer, de nous mettre tout ce qu'il veut, parce que de toutes les façons, on a un niveau extraordinaire.
C'est comme le nombre d'images qu'on peut percevoir par seconde, c'est comme beaucoup.
Voilà, exactement.
C'est comme les chats sur un bateau, ils prévoient la tempête.
Oui, voilà. Bien sûr. Ouais, comme ouais. Ils perçoivent avec leurs pieds aussi, ils perçoivent avec les vibrations, des choses que nous, on est incapables.
Ouais. Nous, on est incapables. Les tremblements de terre, ils vont se rendre compte avant, ils vont sauver. Voilà.
Les oiseaux.
Oui, les animaux. Parce qu'ils sentent les vibrations, chose qu'on est incapable de faire. On est incapable. C'est ça la réponse. C'est pas la réponse que Dieu nous a bridé. Dieu a bridé l'homme volontairement pour pas le rendre fou. Il faut que l'homme puisse se développer. Pour qu'il puisse se développer, il faut qu'il sente un peu qu'il soit indépendant. Donc on l'a laissé être indépendant. Mais d'un autre côté, quand j'étudie la Torah, eh ben, je manipule les choses extraordinaires. Même si j'y ressens rien, mais je les manipule concrètement. Et donc ils sont en moi.
Oui, mais on ne développe pas finalement ce sens. C'est pas parce que tu vas étudier que tu vas développer plus ta capacité à percevoir.
Bonne question. C'est moi, Dantani a dit comme ça. C'est une très bonne question. Il dit, quand j'étudie la Torah, c'est comme si je suis en train d'enlacer le roi. Est-ce qu'il y a une différence si j'enlace le roi quand il est tout nu ou quand il a 1000 vêtements sur lui? Est-ce que parce qu'il a 1000 vêtements sur lui, ça s'appelle que je n'enlace plus? J'enlace toujours.
C'est la même chose.
C'est la même chose. Seulement, des fois je le ressens plus, des fois je le ressens moins. Le roi, c'est la Kadosh Baruch Hu. Donc nous, on a mis des protections, mais concrètement, on enlace le roi. En haut, à peine il touche la Kadosh Baruch Hu, tout de suite ils sont brûlés, ils ont peur. Nous, on est là en train d'enlacer et tout, on y va. Parce qu'on est protégé, mais concrètement, on l'enlace. C'est pour ça que Yafash Ahad Bitshuva Omasim Tovim Bar Olamazé, Mikol Chayo Olamaba. Un instant de teshuva et de bonnes actions dans ce monde-ci vaut plus que toute la vie du monde futur. Parce qu'ici on est bridé, donc du coup on peut atteindre des niveaux qu'en haut ils sont incapables, ils ont peur, ils ne touchent même pas. Pour nous montrer que quand on étudie un chapitre comme ça, on comprend comment. C'est pas l'angoisse, mais on se dit attends, c'est pas n'importe quoi ce qu'on fait, on ne se dit pas n'importe quelle science, on est en train d'attraper la Chorma de Kadosh Baruch Hu. On est en train de faire des choses que en haut, Gan Eden, même une seconde de ça, ils auraient tremblé de ça, ils auraient hurlé de ça. Quand on entend ça, hein, ça nous amène tout de suite Ira Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est un paramètre très important dans l'étude. Ça, je me rappelle quand on était à la Yeshiva, le Rabbani nous précisait tout le temps que c'est très important d'avoir la crainte. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la crainte quand tu étudies la Torah, quand tu fais que par amour et que par plaisir, dès qu'il y a un truc qui ne te plaît pas, par exemple, tu dis, il y a un maître qui a dit un truc, c'est bon, ça ne te plaît pas. Qu'est-ce que tu dis? Bah, si tu n'as pas la crainte, tu zappes. C'est très important d'avoir la crainte de son maître et la crainte d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on étudie la Torah. De qui on apprend ça? On apprend ça d'un des maîtres de la Gemara qui s'appelait Rava. On dit que Rava, toujours, comment il commençait son cours? Avec une blague. Mais attention! Après la blague, qu'est-ce qu'il faisait? D'accord? C'est Rava. Non, c'est Rava, non?
C'est
Rava. Il commençait son cours toujours avec une blague. Mais après la blague, qu'est-ce qu'il faisait? Après la blague, tout d'un coup, il prenait un visage sérieux. Et là, les élèves avaient peur, et là, il commençait le cours. Alors, dans un Mavar, Chassidut, on pose la question, mais pourquoi il fallait que les élèves aient peur? Il dit parce que pourquoi il les a fait sourire? C'est pour les mettre en condition pour que leur corps soit à l'aise. Mais après, si tu restes comme ça, trop à l'aise, et que tu ne rends pas compte de la chorma et de la yira et de la gdusha qu'il y a dans la Torah, tu passes à côté. Il faut être conscient de la gdusha de la Torah. Mm-hmm. C'est pour ça que, après les avoir mis à l'aise,
concentration,
pas seulement, accepter, réaliser la kedusha de la Torah, la kedusha qu'on a. Très important, ça. Et donc, dans les mots, alors, Vézé Shekatou, Vayetsavenu Hashem et Kol Achukim Ha'ele, Leira et Hashem. Maintenant, on va comprendre pourquoi c'est écrit dans la paracha Vayetranan. C'est écrit que Dieu nous a ordonné toutes ces lois, Leira et Hashem, pour craindre Dieu. On pourrait se poser la question, on peut se dire, mais quel rapport? Toutes les mitzvot, c'est pour craindre Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de rapport. Maintenant, on comprend. C'est que, grâce aux mitzvot que je vais étudier, grâce à la Torah que je vais étudier, ça va m'amener une grande crainte à Kadosh Baruch Hu. Je lis quelques lignes, après je vais développer. Val ira gdola zo amru, sur cette grande crainte, on a dit, dans Pirkei Avot, im en chorma en ira. Alors maintenant, vous savez, dans Pirkei Avot, il y a plusieurs... Là où le Pirkei Avot? On entend Pirkei Avot ici. Attends, oui. Voilà. Alors. Vous allez voir comment on va comprendre cette Mishnah magnifique de Pirkei Avot. Ça va, Jackie?
Oui.
Vous êtes avec nous?
Voilà.
Bon, venez, vous allez lire.
Moi?
Oui, vous.
Vous êtes le premier répercavote de Shabbat. Donc,
voilà. Alors, oui, c'est où?
Donne-moi ma lunette.
Mel Yudzein, voilà. Elle lise nous la Mishnah Yudzein. Après, je vais la traduire.
Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Im en Torah, en derech eretz. Im en derech eretz, en Torah. Im en chokma, en yira. Im en yira, en chokma. Im en daat, en bina. Im en bina en daat. Im en
kemach.
Kemach en Torah. Im en
Torah en kemach. Alors, je vais traduire la Mishnah. Vous allez voir comment ça va, cette Mishnah va illustrer parfaitement le thème qu'on vient d'expliquer aujourd'hui. Le fait que c'est important de développer la crainte d'Akadosh Baruch Hu dans l'étude. Et comment on développe la crainte? C'est en se rendant compte de l'ampleur qui se passe quand on étudie la Torah, comment on s'attache à Akadosh Baruch Hu. Je lis la Mishnah. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. D'abord, qui était ce Rabbi Elazar ben Azaria? C'est qui était Rabbi Elazar? Ça vous dit que Rabbi Elazar ben Azaria? On le voit, Rabbi Elazar. Hein? Alors, Rabbi Elazar ben Azaria, c'est le prince qu'on voit dans la Haggadah. C'est une personne qui était Rosh Yeshiva à l'âge de 17 ans. Il y en a qui disent même 14 ans.
Mais qui paraissait
70 ans. Ouais. Mais concrètement, il était très très jeune. C'est-à-dire, c'est un grand chacham. Donc, lui, il est capable de nous dire comment il faut appréhender la chokhmah. Parce que lui, être Rosh Yeshiva de gens qui font le double, le triple ou quatre fois son âge, d'accord, c'est que c'est vraiment une grande pointure. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Im en Torah en derech eretz. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz, on va l'expliquer dans le sens de politesse. C'est-à-dire que pour avoir une vraie politesse, un vrai respect des gens, il faut la Torah. Mais d'un autre côté, imen derech eretz en Torah. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de Torah. Ça veut dire que si on ne se respecte pas les uns les autres, on ne peut pas d'un côté être religieux et d'un autre côté ne pas se respecter. C'est les deux dépendent l'un de l'autre. D'accord? Ça veut dire, pour avoir la Torah, il faut être derech eretz. Ça veut dire qu'il faut être quelqu'un qui est posé, qui est respectueux. Et pour devenir respectueux, il faut étudier la Torah. Donc c'est l'un dans l'autre.
Mais il a commencé quand même par la Torah.
Oui, il a commencé par.
C'est-à-dire que l'un peut amener à l'autre, mais comment c'est
la Torah amène le respect et le respect amène la Torah. Voilà, mais il faut les deux.
Et quelqu'un de respectueux peut être amené.
Lui te dit que tu ne peux pas être vraiment respectueux si tu n'as pas la Torah.
D'accord, donc il commence quand même par la Torah.
Parce que sinon le respect sera intéressé.
Voilà. Ne va pas s'enlever.
Oui, non mais ça.
Mais le premier c'est la Torah. C'est vrai, Nachman, c'est vrai. Ensuite, ce qui nous intéresse maintenant, im en chorma en ira. S'il n'y a pas de chorma,
il n'y a pas de crainte.
Im en ira en chorma. S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de chorma. Maintenant, on comprend. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Im en chorma en ira. S'il n'y a pas de chorma, il n'y a pas de crainte. Parce que pourquoi j'ai la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Parce que comme j'étudie la Torah, ça m'amène la crainte. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas la crainte d'Akadosh Baruch Hu, en chorma, j'arrive pas à comprendre. Parce que pour réussir à comprendre la Torah, il faut que je me rende compte que c'est quelque chose de très important que je suis en train d'étudier. Donc on voit ici qu'il insiste sur l'importance de la yira, la crainte d'Akadosh Baruch Hu qu'on doit avoir quand on étudie la Torah. Que sans la crainte, il n'y a pas de sagesse, et sans la sagesse, il n'y a pas de crainte. L'un amène l'autre. La sagesse amène la crainte amène la sagesse, l'un va vers l'autre. Après, qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qu'on a dit, Jackie? Hein? Im en da'at en bina, im en bina en da'at. S'il n'y a pas de compréhension, s'il n'y a pas d'attachement à la chose, on n'arrive pas à le comprendre, et si on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas s'attacher à la chose. Im en kemar en Torah, s'il n'y a pas d'argent, pas de farine, on ne peut pas étudier la Torah. Mais d'un autre côté, im en Torah en kemar, si on n'étudie pas la Torah, il n'y aura pas d'argent non plus. Donc, ça veut dire, pour étudier la Torah, il faut de l'argent, d'accord? Mais pour gagner de l'argent, il faut étudier la Torah. Ça veut dire, ce que Rabbi Elazar ben Azaria veut dire, il faut savoir que Rabbi Elazar ben Azaria venait d'une famille très très riche. C'est pour ça qu'il parle de tout ça. Les maîtres de Pirkei Avot, ils parlent toujours de choses qu'ils ont vécues dans leur vie. Et quand il parle de toutes ces choses-là, c'est les qualités qu'il avait en lui. La qualité de l'étude de la Torah, la qualité du respect du derech eretz, la qualité de la chorma, la qualité de la crainte. Hein, c'est Rabbi Elazar ben Azaria, il avait peur de devenir Rosh Yeshiva. Il voulait pas devenir Rosh Yeshiva. Il a dit à sa femme, je veux pas le faire, je me sens pas prêt. Et il y a eu le fameux miracle, parce qu'il avait peur, il avait la crainte, d'accord?
C'est bizarre, on a dit une Kemar, et après il dit Torah, et donc, il fait par rapport au premier. Il commence par Kemar, et après Torah. Et alors que dans. Non.
Là, les autres, il a commencé.
Ouais.
Il commence par Torah. C'est vrai. En tout cas,
c'est-à-dire que d'abord, il faut gagner sa vie avant que.
Comme dit mon père toujours, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je rappelle, en fait, j'ai entendu ça plusieurs fois de Rav Asimov. Rav Asimov, des fois, il disait, il y en a tellement de projets à faire, quel dommage qu'on a... Parce que bon, pas au Hachem, dans les institutions Chabad, on est toujours au-dessus du budget. Le Rabbi, il a dit qu'une institution Chabad qui a de l'argent qui reste dans le compte, c'est qu'il y a un problème. Non, mais après, il faut avoir un certain équilibre, bien sûr. Je dis pas qu'il faut être fou, mais concrètement... Alors, je me rappelle, j'entendais souvent le Rav Asimov dans les réunions, il disait, mais quel dommage qu'on n'a pas encore plus d'argent, parce que les projets, on en a, c'est pas ce qui manque. Ce qui manque, c'est juste de l'argent, parce que sans l'argent, on peut mettre des projets.
Forcément, il faut être fou pour voir, tout ce qu'il a entrepris.
Je me rappelle, une des dernières réunions qu'on avait fait, il nous avait dit... il parlait de créer de nouveaux postes, donc d'amener de nouvelles personnes, etc., créer de nouveaux postes. Il a dit, même si on vit au-delà de nos moyens, mais il faut une certaine limite quand même. Donc il avait expliqué que bon, il fallait quand même recadrer, etc., bon, pour prendre un peu de temps. Mais voilà, ça veut dire que S'il n'y a pas de farine, s'il n'y a pas de pain, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Les deux vont ensemble.
S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais rapport, d'abord l'argent, après la Torah.
Parce que comment tu veux étudier la Torah si tu n'as pas de quoi manger?
C'est ça.
Comment tu veux lancer un projet s'il n'y a pas d'argent pour le lancer? Le projet peut être bon, mais s'il n'y a pas d'argent, comment tu veux le lancer? T'as pas le choix.
Mais non, aujourd'hui, dans la pratique, dans le monde religieux, on voit deux choses. On voit des gens qui, grâce à Dieu, du matin jusqu'au soir, ils étudient.
Bon.
Mais ils sont soutenus.
Ils sont soutenus. Financièrement. Il faut bien qu'ils mangent.
D'accord. Ceux qui les soutiennent, donc ça veut dire qu'ils n'étudient pas la Torah.
Ils étudient moins.
Pas ceux qui les soutiennent. Ceux qui vont chercher le soutien.
Oui.
Donc ça veut dire qu'ils sont attachés à ceux qui étudient.
Oui.
Et donc ces gens-là, ce pion qui fait l'aller-retour entre eux, donc ils sont dispensés d'études.
Non, ils vont étudier moins, que c'est leur travail.
D'accord.
On travaille à chercher de l'argent. C'est leur travail, ils sont payés pour ça.
C'est bon.
Voilà, donc ce que je voulais vous montrer par cette Mishnah, c'est l'importance de la crainte d'Akadosh Baruch Hu qu'on doit avoir lorsqu'on étudie la Torah. La crainte, la Yira. Ne pas être là de dire... vous savez, par exemple, je me rappelle quand on était à l'Yeshiva aussi... Les rabbins, ils insistaient sur la posture qu'on doit avoir quand on étudie la Torah. Des fois, je me rappelle quand on était les Shiva, il y avait des élèves qui étaient comme ça, tu vois, avec les cigarettes, etc. Avec la Gemara, tranquille. Pousse-toi. Tu sais ce que tu es en train de faire, là? Il y a un malachim qui est en train de t'écouter, en train d'étudier la Torah, et tu étais là en train de... Tu sais, quand il fait chaud comme ça, il était dans la cour, etc. Tu vas me dire, c'est magnifique, le bonhomme, il est là, il étudie la Gemara, laisse-le tranquille. Pousse tes pieds. Parce que, il faut la Yira. Il faut la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Quand on étudie la Torah, il faut être en plus de la crainte.
On prend ça de David Amener.
Oui.
On fait voir ce qu'il étudiait, il était comme. Il se repliait comme
se replier.
Un verre.
Ouais.
Plutôt la rate.
Comme moi.
Alors, on continue. Va Torah, donc va lire Agdolazo. Donc je suis maintenant sur la page 293, la parenthèse là. Va lire Agdolazo, sur cette grande crainte. Amrou, les Chachamim ont dit Im en Chochma en Ira. S'il n'y a pas de Chochma, il n'y a pas de crainte. Donc, ce qu'on a expliqué. Donc, voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est d'expliquer comment l'étude de la Torah, c'est extraordinaire, et que ça va nous amener à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et que même si je ne le ressens pas, Maneshama le ressent, donc il faut le faire, il faut profiter de ce qui est extraordinaire, parce qu'au Gan Eden, ce sera déjà trop tard. Parce que comme on verra ce qui se passe au Gan Eden, on aura peur même d'y toucher. Là, on peut y aller, donc il faut y aller. Et Maneshama, elle est très 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 contente quand on le fait. Ve'a Torah, nikret etzla, tar'a, ledarta, ke moshikatuv makom acher. On dit que la Torah est appelée par rapport à cette crainte la porte de la maison. Ça, c'est le Zohar qui dit ça. Le Zohar, il dit, dans une maison, tu as la maison et tu as la porte. D'accord? Maintenant, c'est quoi la porte? La porte, c'est ce qui me permet d'accéder à la maison. C'est-à-dire, sans la porte, je peux pas rentrer dans la maison. Si la porte s'ouvre pas, s'il y a que des murs, je peux pas rentrer dans la maison. Le Zohar, il pose la question. Il dit, entre la Torah et la crainte de Dieu, lequel est la porte pour qui? Parce que la porte, c'est, si vous voulez, c'est le moyen pour arriver au but. Donc, lequel est la porte par rapport à qui? Qu'est-ce que tu penses, Yves? Par rapport à ta question, ça? Mm-hmm. Je me suis?
Ouais, je reprends.
D'accord. Je dis, dans une maison, il y a une porte et il y a la maison. La porte, c'est le moyen, la maison, c'est le but. D'accord. On est d'accord? Donc, ça veut dire, le but, c'est d'entrer dans la maison, mais s'il n'y a qu'un mur, je ne peux pas rentrer. Donc, la porte, c'est le moyen et la maison, c'est le but. La question que pose le Zohar, il pose la question, il dit, entre la crainte et l'étude, lequel est la porte pour qui? C'est-à-dire, lequel est le moyen, lequel est le but? Est-ce que le moyen, c'est la Torah et le but, c'est la crainte de Dieu? Ou est-ce que le moyen, c'est la crainte et le but, c'est l'étude? Grande question, ça. Grande question, ça.
C'est par l'étude que la crainte vient.
Qu'est-ce que répond le Zohar? Le Zohar répond, il te dit, la Torah, c'est la porte pour arriver à la crainte de Kadosh Baruch
Hu. Donc c'est la crainte, le but?
Donc la crainte, c'est le but.
Mais la crainte, dans quel but?
Hein?
Est-ce que la crainte, c'est le bon mot français?
Oui,
crainte, c'est le bon mot français.
Bien sûr.
Oui, mais la crainte, dans
la crainte dans le mot en français, dans la crainte, ça veut dire j'ai peur de...
La crainte, quelque... révérentielle, ce que tu veux. Mais la crainte, oui, la crainte.
Non, mais la crainte... Moi,
par exemple, Yirat Hashem. Tu sais qu'il y a une mitzvah d'aimer Hashem, il y a une mitzvah d'avoir peur d'Hashem.
Quand je suis un petit garçon, j'ai peur du directeur d'école.
D'accord.
J'ai peur parce que tu dis pourquoi j'ai peur? Qui me colle, qui me fout de
piquer. Ah, j'ai compris. Non,
c'est pas ça.
Il y a plusieurs types de craintes. Il y a la crainte. Il y a la crainte révérentielle.
Voilà.
Premier niveau, c'est la crainte de la punition. Mais après, tu as un niveau qui est plus fort, c'est la crainte révérentielle, par exemple.
Quoi,
je t'explique très simple. Je suis devant un tzaddik. Ouais. Je tremble. Pourquoi je tremble?
Bah, il y a un tzaddik.
D'accord, mais attends, il va me frapper.
Non.
Alors, pourquoi j'ai peur?
Parce qu'il est en contact.
Pourquoi j'ai peur? De quoi j'ai peur?
Ça, c'est la crainte de quoi? Il est en contact.
Attends, est-ce que tu sens une crainte?
Je sens un contact.
Tu sais, quand on aime, on est décontracté. Quand on craint, on est comme ça crispé.
Oui.
Ça t'est déjà arrivé d'être crispé devant un tzaddik? Ouais. Évidemment. Pourquoi ?
Parce que je sais qu'il est en contact.
Alors je t'explique, c'est très simple. Parce que tu as une crainte révérentielle. Tu as la crainte de la peur de la punition. Tu as la crainte du gosse qui a peur qu'on va le taper. Et tu as la crainte révérentielle. C'est-à-dire que tu es devant quelque chose de tellement grand que tu te sens tout petit, donc tu as la crainte. C'est de ça qu'on parle ici.
D'accord.
Donc la question, je repose ma question, c'est entre la crainte et l'étude, lequel est la porte pour qui ?
La crainte.
D'accord ? Non mais lequel est la porte pour lequel ? C'est-à-dire quel est le but, quel est le moyen ?
Le but c'est la crainte.
Le but c'est la crainte. C'est la réponse, c'est la réponse du soir.
Et la Torah t'aide.
Maintenant, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça.
D'accord.
Il y a des gens qui vont dire la crainte c'est un moyen pour arriver à l'étude. Si je vais arriver à l'étude, j'ai tout gagné. Le Zohar te répond, il te dit non. Il te dit le but c'est la crainte. C'est-à-dire si j'ai obtenu ce but par une autre manière que la Torah, c'est aussi bon.
Mais la crainte c'est un rempart.
Hein ?
Pas ça, hein ? C'est un rempart. Mais la crainte c'est un rempart.
Parce qu'à ce moment-là, t'as qu'à étudier mais c'est déjà toute la journée.
J'ai pas dit ça. Attention. Non.
C'est un autre moyen d'arriver à la crainte. Parce que l'étude.
La crainte, non. Il faut de l'étude, parce que quand je fais de l'étude, j'attrape Akadosh Baruch Hu. Mais il faut comprendre que le but de l'étude, c'est pas pour l'orgueil.
Non, bien sûr.
Et c'est même pas pour dire je fais l'étude pour accomplir une mitzvah.
Mais quelqu'un qui.
Attendez. Qui pas avoir la crainte, ça veut dire. C'est même pas que je vais dire je vais étudier la Torah hein, parce que c'est une mitzvah. Et comme ça j'ai un capital gagné d'en haut. Voilà, il y a des gens qui font un patrimoine immobilier en bas. Il y a des gens, tu vois, ils construisent leur patrimoine immobilier d'en haut. C'est des égoïstes aussi. Il est en train de construire son patrimoine immobilier dans. D'accord ?
Oui, mais c'est une notion qui est abstraite aussi, la crainte, que tu sais bien, mais c'est quand même abstrait. C'est-à-dire, la crainte, dans quel sens ? C'est pas. Tu bats la crainte de quelqu'un, j'ai peur, tu ressens une émotion.
Ben, je vais te donner un exemple. Voilà. Quand tu étudies la Torah,
être impressionné.
Tout dépend le sentiment que tu as quand tu étudies la Torah. Est-ce que le sentiment que tu as quand tu étudies la Torah, quand tu dis une page de Gemara ou ce que tu veux,
c'est par crainte ou par amour, je sais pas.
Alors je vais expliquer. Écoute la définition.
Tu sens que c'est la vérité parce que voilà, à la rigueur crainte, c'est un peu dans le sens.
J'ai peur.
D'accord.
Oui, c'est ça.
Je pense pas que c'est ce qu'on.
C'est une crainte, Akadosh Baruch Hu. Je vais te donner un exemple.
Non, mais je pense que c'est sûr que ça doit être.
Sentir petit.
Alors je vais.
Il va expliquer comment arriver à ça.
Alors c'est la conscience.
Je vais donner un exemple. Regarde. Quand j'étudie la Torah. Je te dis qu'un sujet.
Parce que si on avait la crainte, on ferait plus d'averot.
C'est sûr, ça, c'est pas de ça que je parle. Et imagine-toi par exemple que j'étudie un texte compliqué de Torah, de Gemara, de Zohar, de ce que tu veux. Un texte de Tanya, un texte compliqué. Quel sentiment j'ai après avoir étudié ? Est-ce que j'ai un sentiment de plaisir ? Ou est-ce que j'ai un sentiment que waouh, c'est très très grand et je me sens en vérité petit, c'est-à-dire je sens que ce que j'ai compris, c'est encore rien par rapport à ce qu'il y a à comprendre. Les deux sentiments sont possibles.
De ton état,
je comprends que les deux sentiments sont possibles. D'un côté, je peux avoir un sentiment d'être content de ce que j'ai pu comprendre. D'un autre côté, comme j'ai compris que c'est énorme ce qu'il y a ici, j'ai compris, mais je me sens tout petit. Et j'ai un sentiment de hira. Je me sens comme un microbe devant un Kadosh Baruch Hu. Pourtant, c'est la même Torah qu'on a étudié.
C'est ça, mais c'est de la
crainte. Vient le Zohar.
C'est pas de la crainte, hein.
Ça s'appelle la crainte révérentielle. Je me sens petit devant un Kadosh Baruch Hu. Vient le Zohar, il t'explique que le but de l'étude de la Torah, c'est quoi ? C'est d'arriver à la crainte. Seulement, la question que tu poses, écoute bien. Regardez ici. Et là seulement, des laves comme Mocha Savilda. Pas tous les cerveaux sont capables de supporter la notion qu'on vient d'expliquer.
C'est pas la crainte dans le sens.
Excuse-moi juste.
C'est pas la crainte dans le sens punition.
Non, pas du tout.
C'est pas crainte en disant je crains de.
Pas du tout.
C'est la conscience de ta place.
C'est la crainte dans le sens je me sens petit.
C'est la conscience de ta place.
Tu as pris conscience de qui était Dieu.
Où tu es ? Où tu es par rapport à lui ?
Quand ce soir je vais fermer le livre, est-ce que je vais avoir le sentiment. J'ai kiffé, j'ai bien compris, j'ai kiffé un truc, j'ai appris quelque chose de nouveau. Ou est-ce que je vais avoir le sentiment, waouh, Dieu est tellement grand, je me sens tout petit, j'ai compris encore plus comment je suis petit. D'après la Chassidoute, d'après le Zohar, c'est la deuxième. Im en chorma en ira. Le but de la chorma, c'est d'atteindre la ira, d'atteindre la crainte d'Akadosh Baruch Hu. La chorma est la porte pour arriver à la crainte d'Akadosh Baruch Hu.
Parce que le terme il est tellement, il y a plusieurs
connotations. Après, on peut voir.
Dans ce que tu dis là,
oui.
Je le traduirai avec un autre mot. Et pas, c'est-à-dire, c'est la vision de la place d'Akadosh Baruch Hu par rapport à l'homme. Ça veut dire que l'homme n'existe même pas par rapport à Akadosh Baruch Hu.
Alors regarde, on va prendre la définition du dictionnaire de craindre. Craindre. Bon, transitif direct, d'accord. Avoir une émotion désagréable due au fait qu'on croit ne pas pouvoir échapper à une situation considérée probable. Éprouver de l'inquiétude, d'accord.
C'est cette notion-là de craindre.
Bah oui, avoir une émotion, c'est oui, c'est pas.
Être impressionné par quelque chose.
Parce qu'on n'a pas un synonyme.
C'est une forme de craindre.
Appréhender, ouais. Redouter.
Ouais.
Voilà, c'est mieux y redouter. D'accord.
Redoutable, on peut dire redoutable, mais redoutable, c'est pas forcément négatif.
Mais c'est pas tout le temps. les jours où du tap, c'est que 10 jours bon. Quand même.
Non, pour moi, je... Bon.
Non, ça va, ça s'entend.
En tout cas, moi, ça me dérange pas de.
Non, ça dérange pas.
Non, c'est pas c'est dérangeant. Non. Ça n'a rien à voir. Ça fait des dérangeants, mais alors, c'est.
Tu permets. Hein.
Alors, je vais juste terminer. Trois lignes. Il dit seulement, la notion qu'on vient d'expliquer, c'est une notion qui est très puissante, ce qu'on vient d'expliquer. Et il dit, Lav kol mocha savilda. Alors là, je suis le dernier paragraphe de la page, là, de la page 293. Il dit, et là seulement, des lav kol mocha savilda. C'est pas tous les cerveaux qui arrivent à comprendre ça. Ça veut dire, pas tout le monde est conçu pour comprendre ce niveau-là, que la Torah, ça mène la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et que le but de la Horma, c'est d'avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, c'est vrai, ça veut dire, c'est le but, mais pas tout le monde est capable de le comprendre, ça. Ah, seulement. Tu veux dire, alors dans ce cas-là, si c'est que les tzadikim qui le comprennent, alors celui qui n'est pas tzadik, laisse tomber. Pourquoi tu veux qu'il se prenne la tête? Qu'il se prenne pas la tête? Il dit non. C'est là qu'il revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le prophète Daniel. Ah, cependant, Gaman de l'Ostavil Mochokal Ir Azo, même celui que son cerveau est incapable de concevoir une crainte pareille. D'accord? Donc, il n'est pas capable de concevoir cette crainte. L'omina vela mixata, ni une partie de cette crainte, et ni une partie infime de cette crainte, ça veut dire rien du tout. Mais pne prit tout erer nafsho, à cause que son âme est d'une bassesse. Ça veut dire que, voilà, son âme est très très bas, et qu'il n'arrive pas à ressentir des choses comme ça, très très basse. Beshorcha, mekora, madrigot, artan, l'exercice d'acier. Et que des fois, c'est pas de sa faute. C'est pas parce qu'il a fait des bêtises. Parce que, on a une neshama, qui, ça dépend d'où elle vient notre neshama. On a des neshamot qui viennent, des tzadikim qui viennent du Olam Atzilut, nous on a des neshamot qui viennent du Olam Asiya. T'as des neshamot que dès le départ, elles sont bridées. Donc même si le bonhomme il pousse, mais le moteur il est bridé, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, En ir abo, mea kevet bo le maase. Cette crainte n'empêchera pas quand même que c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, même si j'ai pas compris, c'est ce qui est quand même en train de se passer, donc il faut quand même continuer à étudier la Torah. Ah, j'ai pas ressenti la crainte. Ben, neshama, elle a ressenti la crainte et ça c'est pas grave. Juste pour terminer avec une anecdote après les questions. Vous savez, il y a un machal de rabbi précédent. Pour illustrer ça, pour illustrer comment, même si je comprends pas, les choses se passent quand même. Alors le machin, il est comme ça. Le machin que le précédent, il ramène, il dit, le cheval. Je prends un cheval, et je le prends à ma fois pour faire la route. Bon. On lui met une carotte. Et la carotte pour, d'accord? Le cheval, il court. Vous savez pourquoi il court le cheval? Parce qu'il croit qu'il court vers la carotte. Et comme il croit que la carotte est plus loin, donc il court à chaque fois parce qu'il croit que la carotte est en plus vite que lui. Bon. Concrètement, il avance. Et de temps en temps, on lui met un peu à manger, on lui jette à manger devant. Comme ça, il croit qu'il court vers la nourriture. Concrètement, le cheval, il avance. Maintenant, le cocher qui est sur le cheval, pourquoi il est sur le cheval?
Il y a une carotte aussi.
Parce que lui aussi, sa carotte, c'est qu'il doit gagner l'argent. Maintenant, celui qui est dans le carrosse derrière, c'est quoi son but? Lui, son but, c'est que lui, il a payé tout le monde. Donc, il a payé le cocher qui a acheté le cheval. Parce que lui, il doit arriver à la ville là-bas. Maintenant, le rabbi précédent, il disait comme ça. Il disait, est-ce que parce que le cheval y pensait à la nourriture, c'est pour ça que le chemin n'a pas été fait? Le chemin a été fait. Maintenant, le cheval, il avait une perception limitée, donc il n'a pas compris qu'en vérité, le vrai but, c'est qu'il est en train d'accompagner un tzaddik pour aller faire une mitzvah. Mais qu'est-ce que ça change? De toutes les façons, le cheval, il a fait son travail. Et le cocher, il n'a pas pensé qu'il allait pour gagner de l'argent. Mais est-ce que parce qu'il est parti pour gagner de l'argent, il n'a pas fait la mitzvah? Il a fait la mitzvah, il a accompagné un tzaddik. Alors, le rabbi précédent disait, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est pas parce que je ne comprends pas que ça se passe pas. D'où l'importance d'étudier la Torah. Même si je n'arrive pas à comprendre et je n'arrive pas à ressentir ce niveau de crainte d'Akadosh Baruch Hu, ma neshama le ressent. Et même si je suis comme un cheval, parce que bon, j'y comprends rien du tout, concrètement, je vais à la destination. Et quand j'arriverai en haut après 120 ans, là, on me dira, voilà, je vais te montrer maintenant les destinations que tu as atteintes. J'ai dit, ah. Quand on arrivera en haut, on sera plus un cheval. Et là, on se dira, mais purée, comment j'ai pu faire ça? Waouh, j'avais pas peur, j'avais un tzadik dans mon carrosse, j'étais comme ça. Mais comment je me suis pas rendu compte? Seulement, une fois que tu te rends compte, tu prends plus le tzadik dans ton carrosse, t'as peur de le prendre. C'est ça le pchat. Mais, faut profiter que maintenant qu'on peut le faire d'avancer. Et au contraire, à la limite, moins on sent, mieux c'est. Donc, celui qui peut ressentir, tant mieux. Mais c'est pas parce qu'on ressent pas qu'on n'a pas avancé. Pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? C'est d'arriver à la ir adachem, à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et même si je crois que je ne l'ai pas ressenti, quand même, en vérité, je suis en train d'avancer. Donc avec ça, on a terminé Be'ezrat Hashem, le chapitre 23, et la semaine prochaine, on va enclencher, si Dieu veut, le chapitre 24. Alors c'est très très intéressant. Chapitre 24, on va expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une avéra. Donc là maintenant, on a parlé, si vous voulez, aujourd'hui, des mitzvot, ça c'est le cours de la semaine dernière. On a parlé de la Torah. Maintenant, le chapitre 24, on va parler qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une avéra. Pourquoi la avéra est très très grave, et vous allez voir, je peux vous garantir, qu'après le chapitre 24, vous aurez du mal à faire des avérotes. En tout cas, 24. Petite Sarah, vous laissez tranquille pendant quelques jours.
Il faudra encore plus fou.
Voilà, maintenant, il y avait les questions.
Alors,
si en fait on a expliqué la Mishnah de Avot Imen Chokhma Inira, on a expliqué au fait Imen Imen Chokhma Inira parce que c'est la Chokhma qui amène la Ira.
Oui.
Tout simplement.
Oui.
Donc, la porte au fait c'est la Chokhma et pour rentrer dans la maison la Ira. Donc s'il n'y a pas la porte on ne peut pas rentrer.
Oui.
Donc je peux pas avoir la Ira. Mm-hmm. Et comment on explique Imen Ira en Chokhma? Parce que de toute façon pour arriver à la Ira je dois passer par la Chokhma. Alors, comment je peux avoir Imen Ira?
Alors, la Gemara pose la question. C'est une Gemara, c'est en vérité. C'est une Gemara dans le traité, c'est une Gemara dans le Shabbat, Shabbat de Flamed Aleph. Là-bas, la Gemara dit qu'il y a les portes extérieures et les portes intérieures. Elle pose la question. Elle dit, mais Imen Ira, Imen Ira, n'entre pas. Alors, qui c'est qui est en vérité? Là-bas, la Gemara répond. Elle dit que il y a les portes intérieures et il y a les portes extérieures. D'accord? Donc, donc, par rapport à ça, on fait la différence. Mais quand on lit la Gemara là-bas, on comprend que le but ultime, c'est quoi? C'est la Ira. Donc, pour arriver à la Ira, il faut la Torah.
D'accord. Alors moi, j'ai vu un autre chat.
C'est Daf Lamed Aleph Amoud Bet.
J'ai vu un autre chat sur ma Mishnah d'Aravot qui est ramené par Rabbi Chaim de Volozhin. Mm-hmm. Il dit que, au fait, la Ira, c'est le Haut-Tsar, c'est la grange.
Oui.
Et la Torah, la Chochma, c'est la Tevoa. C'est le blé qu'on met. Donc, s'il n'y a pas de grange, je n'ai pas où mettre mon blé, donc ça ne tient pas.
S'il n'y a pas de blé, j'ai
et
pas
s'il n'y a pas de blé, la grange ne me sert à rien.
D'accord.
Voilà, comme ça, il a expliqué.
Et la Torah, c'est quoi alors?
C'est sûr. La Torah, c'est le blé.
C'est le blé. Donc la Torah, c'est le but.
La Torah, c'est le but.
Alors, Chassidut explique différemment. Chassidut dit que le but, c'est la crainte des Kadosh Baruch Hu.
Et lui, le problème qu'il avait avec cette explication, je pense, hein, je ne sais pas s'il le dit clairement ou pas, mais c'est qu'au fait, après, à part si tu dis que le but, c'est d'atteindre la Ira, j'ai d'autres moyens de l'atteindre qu'en étudiant un
d'après-midi. Évidemment. Ouais, c'est vrai.
Ça, c'est un problème pour lui.
Un problème. Bon, à méditer. Voilà, en tout cas, on a compris dans ce chapitre l'importance de l'étude de la Torah, que d'après l'Admor HaZaken, le but de l'étude de la Torah, c'est d'amener la Yirat Hashem à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Bon, j'espère que ce n'était pas trop compliqué aujourd'hui. À partir de chapitre 24, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, là, on a fini une série de chapitres assez compliqués. 20 à 21, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, 20 à 21, 22, 23, on a parlé de les deux premiers commandements, comment c'est la base de toutes les mitzvot, le Shema Israël, comment je suis éternel, tu dois reprendre notre Dieu, et comment c'est des commandements de base. C'était assez compliqué. À partir du chapitre 24, on va plus rentrer dans les Averot et comment combattre la dépression, la colère, l'orgueil, des choses comme ça. Bon, on va rentrer plus dans les choses concrètes. Mais bon, c'est important quand même de voir à quoi ça sert d'étudier la Torah. Voilà, ça va être là pour aujourd'hui. Merci.